Nous allons prier, mes amis qui êtes là avec moi aujourd'hui. J'aimerais écouter dans mon cœur une parole de Dieu à travers ce texte. Nous en avons besoin parce que je vais parler sur la mort. On est dans le mois de novembre et on en parle beaucoup. La mort de Jésus est la mienne et la vôtre. Et j'aimerais bien qu'on se lève devant le Seigneur de toute la vie. Il fait naître et il fait mourir. Voilà ce que dit la Bible. Autrement dit, ce n'est pas un accident tout à coup qui lui échappe. Il est présent à notre arrivée, à notre départ. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole, Seigneur. Tes paroles sont vérité. Elles nous disent le chemin. Elles nous disent ce que nous devons être dans cette vie et pour l'autre vie. Donne-nous d'entendre ta voix. Donne-nous d'appliquer notre cœur à la sagesse, de bien compter nos jours, de bien les décompter, afin que nous ne perdions rien de ce temps si précieux que tu nous donnes de vivre. Merci pour ce souffle de vie, pour toi qui vis en nous, pour toi qui es avec tous ceux qui souffrent et qui entend chacune de nos plaintes, de nos prières. Merci Seigneur pour ta bonté. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous m'entendez toujours bien ? Ça va ? Je lis avec vous dans l'Évangile selon Marc, deuxième Évangile, chapitre 14 et verset 1er. Marc, chapitre 14, verset 1er. Vous avez trouvé ? La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Alors, on n'est pas dans les temps, tout à fait. Hein. Là, on est près de Pâques. Mais qu'importe, l'Évangile est toujours d'actualité. Les principaux sacrificateurs et les scribes, donc les chefs religieux de ce temps, cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'est pas beau. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ce qui veut dire qu'il faut tuer Jésus proprement, pas faire de vagues. Bon, on ne sait pas ce qu'on dit parfois. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, petit village à côté de Jérusalem, vers le mont des Oliviers, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. » Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, à Rennes, qui est un petit bout du monde entier, je vous parle de cette femme pour méditer sur la mort. Quand j'emploie ce mot, la mort, les gens haussent les épaules en disant « Oh, vous êtes pessimiste. Vous êtes pessimiste. » Et moi, je réponds « Quand vous dites qu'il pleut, vous êtes pessimiste. Quand vous dites qu'il fait froid, vous êtes pessimiste. » On est réaliste, mes amis. Parce que méditer, penser à la mort, permet d'avoir un équilibre dans notre vie. Ça permet de vivre avec intelligence et pas les yeux fixés sur la terre. Ça permet de compter notre temps. Moi, il me reste à faire 90 ans. Ça va, j'ai encore le temps. On compte notre temps. Ça permet de régler sa vie, de ne pas laisser des disputes ici, des manques de pardon là, des chicaneries. Il faut régler vite les choses. Et ça permet de chercher le but. Pourquoi ? Le but de la vie. Surtout dans notre société où les gens n'ont plus rien à dire sur la mort. Elle ne fait plus partie de la société. Sinon, cacher la mort. Cacher la mort très loin, au fond des maisons de retraite. Quand je travaillais à l'hôpital, ça remonte déjà à quelques années, service gériatrie, où il y avait deux grandes chambres de 20 lits chacune, 40 lits, quand les gens commençaient à partir dans l'agonie, on mettait autour du lit un paravent. On les isolait. À l'époque, je ne pensais pas à tout ce que je pense aujourd'hui. Autrement dit, on les rendait invisibles. On ne laissait pas leur souffrance à la vue des autres pour ne pas faire peur aux autres. On cache la mort. Ou on l'entoure de pensées magiques, des paroles gentilles. On l'entoure de petites histoires. Elle est passée dans la pièce à côté. Bon. Mais la Bible n'est pas un livre de pensées gentilles, de pensées magiques, d'histoires imaginaires. La Bible est un livre de la réalité, transformée par la parole de Dieu. Pas la réalité que tout le monde connaît, transformée par la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans une réalité, vous et moi, qui est dure, parfois impraticable. On vit des choses parfois terribles, des abandons des gens, des enfants malades, tenez, des enfants malades, c'est impraticable ça. On vit dans cela, mais il y a une parole qui transforme, qui recrée, qui crée la vie, qui crée l'espoir. Et dans cette parole, Dieu agit dans notre vie. Nous sommes invités à méditer sur la mort dans notre vie. Cette mort qui met tous les hommes à égalité, les riches, les misérables, l'égalité. Il y a une rue du cimetière, je ne sais plus dans quelle ville, mais dans plusieurs villes, une rue qui va au cimetière, elle s'appelle la rue de l'égalité. Il faudrait faire des rues de fraternité aussi, ça nous manque, ça nous manque. Alors la mort met tout le monde sur le même plan, les âgés, les jeunes, ceux qui sont en parfaite santé, les grands sportifs, les faibles. On est tous mortels, on n'est pas plus ou moins mortels. On est tous mortels, de la même façon. On partira de la même façon. On a du mal à le comprendre, ça. Alors, je reviens à mon histoire. Les apôtres ne sont pas d'accord avec l'idée que Jésus doit mourir. Parce qu'en ce temps-là, on disait, le Messie, le Christ, durera toujours. Ils n'avaient pas tort. Hein. Les apôtres n'acceptent pas que le Christ doit mourir assassiné. Assassiné. Et voici que, dans un repas, chez un nommé Simon le lépreux, je pense que Simon le lépreux, il n'était plus lépreux. Sinon, il n'aurait pas été là. Mais Jésus avait dû guérir cet homme, et cet homme qui devait être joyeux, content d'être en bonne santé, il a invité chez lui les apôtres et Jésus. Et voilà qu'au milieu du repas, après la deuxième viande, dans les grands repas, voilà qu'une femme va entrer, sans parler. Elle va faire un geste qui devrait réveiller les apôtres que oui, Jésus va mourir. On a du mal à penser que ceux qu'on aime vont mourir. Cette femme, sans le savoir, n'a pas réalisé, elle va essayer de les réveiller. Que va-t-elle faire? Elle a sous le bras un vase en marbre, en albâtre, et cette femme, elle va casser le vase. Et ce vase contient un parfum, une bonne quantité, un parfum de très grand prix, et elle va le mettre sur la tête de Jésus. Et il y en a une bonne quantité, et ça a dû couler sur la barbe de Jésus, ça a dû couler sur les vêtements, ça a dû remplir toute la maison et tous les voisins de ce parfum exceptionnel. À l'époque, on mettait ce parfum sur la tête du roi. Peut-être qu'elle veut nous dire, mais il est le roi. À l'époque, on mettait ce parfum, enfin, on devait mettre le parfum sur la tête du Messie. C'est le Christ. Mais personne ne l'a fait. Et à l'époque, on mettait du parfum sur les morts. D'ailleurs, Jésus le dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Jésus le révèle. Donc, cette femme, par cette huile, ce nard, ce parfum très cher, elle montre que Jésus, il est le Messie, mais un Messie mortel. Ça ne va pas ensemble. Un Messie immortel qui est mortel. On ne comprend plus rien. Embrouillé. Elle montre que le Christ, il va mourir. Et sans le vouloir, cette femme, elle va flétrir l'attente d'Israël, l'attente des apôtres qui disent, qui redisent, Jésus ne peut pas mourir. Il ne doit pas mourir. Cette femme, elle dit oui, je l'embaume déjà, je mets le parfum sur lui. Mais cette femme, elle nous fait entrer par la petite porte qui nous montre une espérance beaucoup plus grande que de vivre 95 ans, que de vivre 120 ans. Elle nous montre une belle espérance. Cette espérance est celle-ci. Jésus va mourir, oui. Jésus va nous rejoindre dans notre faiblesse, mais il va nous entraîner dans la vie de Dieu. Il va mourir et il va nous entraîner très haut et nous ressemblerons à Jésus dans le royaume des cieux. Voilà ce que crient les apôtres dans la Bible. Je vous le dis de vous à moi, aurais-je eu confiance? Je dis aurais-je parce que je ne sais pas, ça ne m'a pas été présenté comme ça. Mais aurais-je eu confiance dans un Christ qui évite toujours la mort? Qui échappe à tout, qui ne souffre jamais, qui évite la douleur, qui évite ma vie en morceaux. Quand il me voit souffrir, il passe outre. Aurais-je eu confiance dans un Christ qui ne souffre jamais, qui ne sait pas ce que c'est que de perdre quelqu'un de la famille, qui ne sait pas ce que ça veut dire d'être triste, angoissé, apeuré. Je ne sais pas. Les apôtres ne voient pas le message de la femme quand elle met le parfum en disant « J'embaume le Christ pour son inhumation ». Elle ne voit pas ce message parce que les apôtres refusent la mort. Vous aussi, vous refusez la mort de ceux que vous aimez. On ne peut pas y croire. Ce n'est pas possible. Alors les apôtres, devant la femme qui met le parfum, le beefsteak devait sentir le parfum, tout devait sentir le parfum. Les apôtres, vous savez de quoi ils parlent ? Du parfum. On aurait pu le vendre. Combien ? 150 deniers. Pouf, tu n'y es pas, tu n'es pas dans la course. Tu n'es pas dans le commerce, toi. Non, non, non. On va calculer tout. 200 deniers. Mais non, mes amis, il faut élever le prix à la bourse. Pendant que la femme, elle met le parfum pour dire « Jésus va mourir », les apôtres sont en train de faire un calcul de commercial. Sont dans la finance et dans le jugement. C'est du gaspillage. Qu'est-ce que cette bonne femme, elle gaspille tout. On aurait pu le vendre, dit Judas, le trésorier, qui tourne très vite. On aurait pu le vendre 300 deniers. C'est-à-dire 10 mois de salaire. Combien vous gagnez par mois, dites-moi. Je ne le dirai pas. 10 mois de salaire. Ils ne disent pas « Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Oh, quel geste !» Ils disent « C'est du gaspillage ! C'est du rien, moins que rien, on aurait pu le vendre !» Pendant que Jésus prépare sa mort, il parle commercial. Regardez que dans les décès, il est beaucoup question de commerce. On travaille avec les pompes funèbres et je vais aller bientôt parler au temps de mémoire du crématorium. On s'apprécie beaucoup, mais évidemment qu'on parle de commerce quand quelqu'un décède, même un enfant, tout de suite après, il faut parler chiffres. Combien vous voulez mettre pour le cercueil ? C'est terrible. On aurait pu le vendre 300 deniers. Surtout le nard. Le nard, c'est un parfum, je dirais plutôt une huile essentielle. Vous connaissez les huiles essentielles. Qui vient d'une plante rare de l'Himalaya, ouf, ça vient de loin, surtout à l'époque, c'est le bout du monde, une plante rare qui vient de l'Inde. Et le nom de cette plante, mot à mot, en français courant, le mot de cette plante, c'est « esprit incarné ». Formidable, hein ? Ça tombe bien. Cette femme, elle n'a pas dû comprendre que le Christ, qui est le Dieu incarné, eh bien, il est là et il ne se détourne pas de la mort qui est une condamnation, qui est une humiliation, qui est une fragilité. Il va aller vers cette mort, il va donner sa vie de lui-même. Et la femme, elle va poser un geste sur le Christ pendant qu'il est à table en train de manger. Elle va verser le parfum qui va couler sûrement sur la tunique sans couture de Jésus. C'est un geste prophétique, c'est un geste qui annonce que Jésus va mourir. Et puis Jésus dira aux apôtres qui calculent combien ça va coûter le parfum, il dira, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, vous ne m'avez pas toujours, attention, je vais partir. Il les réveille. Mais quand même la mort, ça nous fait peur, non ? Est-ce qu'on y pense comme ça, joyeusement, comme on pense à Noël ? Comment imaginer un jour que je ne serai plus ? Comment imaginer qu'un jour je serai loin de ceux que j'aime ? Pas si loin que ça, dit la Bible, mais quand même, je ne les verrai plus, ils ne me verront plus. Alors pour compenser se compenser cette vérité qui s'impose à nous, on s'attache à son cœur, comme à une bouée de sauvetage, et on le répare, et on le répare, et on l'embellit. Comme si la santé repoussait la mort. Pas du tout. Peut-on être en pleine santé et mourir? Moïse a 120 ans. Vous allez me dire, oh, il ne doit pas être en forme. Il était en forme. Parfaite santé, à 120 ans. Cet homme de la Bible, unique dans l'histoire de l'humanité, eh bien, à 120 ans, capable de monter sur la montagne, eh bien, à 120 ans, ses yeux ne se sont pas usés et il est mort en pleine santé. Alors, on répare le corps pour dire, non, on va vivre encore. On va bien, on veut tromper la mort. Et quand on voit quelques petits signes de vieillesse, ouf, on est effondré, on pâlit, on est désespéré. On confond même signes de vieillesse et maladie. Comme l'émission qu'on a vue l'autre jour, de ces femmes qui font de l'ostéoporose et qu'on soigne à coups de médicaments qui appauvrissent les os, parce qu'on a confondu maladie et vieillesse. La mort n'est même pas une maladie, voyez-vous. Alors on s'attache à son corps, on s'attache à ses biens, parce que les biens nous donnent un sentiment de sécurité. Les biens nous donnent un sentiment d'importance, les biens nous donnent du poids, du lest, on se sent bien, on n'est pas comme les misérables, on a de l'argent, donc ça va bien. Tout ça c'est trompeur, il faudrait le crier un jour. La Bible dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Ça vous fait plaisir? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Mais monsieur le pasteur, mais soyez un petit peu plus optimiste. Ben si, c'est ça. Je me souviens toujours à Louviers de ce garçon qui travaillait dans les travaux publics sur la route et qui préparait son mariage. Il était dans une tranchée sur la route, toute protégée, et puis une voiture a eu un accident, elle est tombée dans la tranchée, elle l'a écrasée. Ce garçon allait se marier quelques jours après. C'est terrible. Nous sommes une herbe, elle fleurit le soir et on la coupe. Voilà la vérité sur l'être humain. Il faut regarder l'Évangile qui nous permet de vivre les yeux ouverts. Je n'aime pas conduire ma voiture les yeux bandés. Je n'ai jamais fait, puis j'aime pas. J'aime pas ça. Il faut conduire les yeux ouverts. La Bible dit, vous allez être choqués, mais vous êtes toutes sur vos chaises, vous êtes bien assis. Le jour de la mort vaut mieux que celui de la naissance. Oh, pasteur, c'est pas possible. La naissance, c'est beau, le petit, il est beau, tout le monde est heureux, on va lui faire des cadeaux. Vous dites, le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Il y a des raisons. Le jour de la mort, le jour de la naissance, pardon. Oh, il est beau, le petit, mais oh, c'est le portrait de son père. Ouh, comment il s'appelle? Adolphe. Ouh, ça sonne bien, Adolphe Hitler. Ouh, c'est beau, c'est mignon. Il est beau, cet enfant. Voilà, on peut se tromper au jour de la naissance. Mais au jour de la mort, on est capable d'enterrer avec 4 personnes dans l'église, des véritables saints, des hommes, des femmes qui ont fait beaucoup et qui n'ont pas de succès et qui n'ont personne à leur enterrement. Donc, on ne juge de rien. Il y a des naissances magnifiques et puis il y a des naissances qui annoncent de grandes catastrophes. Il faut méditer sur sa mort. Les apôtres refusaient la mort de Jésus. Et au jardin de Gethsémané, quand Jésus pleure pour la dernière fois, il pleure pour les péchés du monde, il est sous ses oliviers noirs, et c'est noir, on ne voit rien, c'est la nuit. Eh bien, les apôtres dorment. Les meilleurs apôtres, comme s'ils disaient, on ne veut pas le savoir. Rideau, oup. Incapable de garder un œil ouvert. Ils dorment. Les apôtres les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, sont incapables d'envisager la mort de Jésus. Et un jour, ils ont dit, à Jésus, « Seigneur, mais non, ça t'arrivera jamais. Ça t'arrivera jamais. » Et Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan. » Autrement dit, « Tu parles comme le diable. Je dois mourir. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il meure afin de sauver l'humanité. » Les apôtres, chez Simon le lépreux, mangent hermétique à la mort de Jésus. Il s'irrite contre cette bonne femme, pardonnez-moi, il s'irrite contre cette femme qui donne son parfum. Et ils ne savent pas, pendant ce temps-là, qu'il y a une réunion secrète, il y a un conseil d'administration, pas très loin d'ici, là, derrière la rue, derrière, il y a un conseil d'administration, et puis il y a des hommes importants, des hommes de religion qui discutent tous ensemble comment on va le faire mourir, qui se charge de le vendre, qui se charge de le trahir, qui se charge de l'achever, comment on va faire? On va le donner à Pilate pour qu'il le mette sur la croix et on va s'arranger pour que ce soit calme, mais on va le faire mourir. Pendant ce temps-là, on préparait la mort de Jésus. Et les apôtres n'y croyaient pas. C'est difficile quand même de penser à notre condition mortelle quand on est jeune. Par exemple, on vient de rencontrer la femme de sa vie, on est plein de joie, ça nous donne des ailes. Vous savez, dans ces moments-là, on se croit immortel. On s'aimera toujours, on s'aimera juste pendant 1000 ans, on s'aimera toujours plus. Et on oublie, on n'entend plus la voix du Seigneur qui nous dit « Réjouissez-vous pendant les jours de votre jeunesse, oui, mais le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » On a du mal à entendre ça parce que tellement on est heureux en voiture, on va à la plage, on va faire des petites tournées partout et on prépare des projets magnifiques, on oublie la mortalité de notre vie. Si nous ne méditons pas sur notre mort et sur la mort des autres, nous allons mener joyeuse et brillante vie dans une croissance illimitée. Il en faut encore plus, et toujours plus d'argent, avec des dépenses sans frein. On va mener une vie hors piste, hors du chemin, hors des autres, tout seul, comme le riche qui n'arrêtait pas de faire la fête tous les jours, et qui le matin, il n'était pas content de ça, c'était un peu sa bête noire. Le matin, il n'aimait pas faire ça, mais enfin, il faisait quand même. Le matin, il enjambait le misérable Lazare qui était là et qui tendait la main pour avoir une petite miette dans sa main, une petite miette pour manger. Ce pauvre Lazare couvert d'ulcères, il était fatigant. Ça, c'était son calvaire du matin. Il fallait enjamber le pauvre Lazare. Voyez-vous, on est hors piste, hors des gens, hors de tout, on est nul. Je me suis posé la question, les apôtres ont-ils manqué un rendez-vous avec Jésus le dernier jour, là, avec la femme? Est-ce que là, ils auraient peut-être dû dire, Seigneur, oui, tu vas mourir, mais c'est pour notre bien. Nous voulons nous tenir à tes côtés, entouré de notre amour et de nos prières. Ils calculaient le prix du parfum. Pouf ! Devant Lazare qui était enterré, les deux sœurs de Lazare sont là sur le cimetière de Béthanie et puis les deux sœurs sont un petit peu agressives, un tout petit peu. Elles ne sont pas contentes parce que Jésus n'était pas là pour les obsèques, parce que Jésus n'était pas là pour guérir son ami Lazare, parce que Jésus n'était pas là pour ressusciter quand il était encore temps. Alors les sœurs reprochent à Jésus, « Ah, si tu avais été là, si tu avais été là, mais non, tu n'es pas là, tu n'es jamais là, où c'est que tu es ?» Jésus dira simplement, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Lazare est vivant. Si tu avais été là, si tu avais été là, Lazare est vivant et je vais le ressusciter. Au jardin, de Gethsémané, l'apôtre Pierre voyant les gens venir chercher Jésus pour le livrer, pour le faire mourir, l'apôtre Pierre qui veut tellement garder Jésus pendant 1000 ans, pendant 5000 ans, l'apôtre Pierre qui est un marin pêcheur, c'est un brave, il pêche du poisson, il le vend, il est heureux, c'est un brave mari, un brave père. Et voilà que l'apôtre Pierre, qui a une épée, qui ne s'est peut-être jamais servi de son épée, il prend l'épée et puis il tape dans le tas, mais il sait pas, c'est pas un soldat, il sait pas couper les têtes. Il fait comme ça, plouf, au lieu de faire comme ça, ploum. Pierre, quand on coupe une tête, on fait comme ça et pas comme ça. Enfin, il tape Pierre parce qu'il veut défendre Jésus. Il est prêt à tuer pour défendre Jésus. Et il a coupé l'oreille, djoum, une oreille qui va tomber par terre. Il va couper l'oreille d'un serviteur qui était là, venu pour arrêter Jésus, bien sûr. Et Jésus va guérir cet homme. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut garder Jésus. Il ne veut pas que Jésus meure, souffre. Après la mort de Jésus, là je vais vite et je termine, après la mort de Jésus, il y a une femme, des femmes sont venues embaumer Jésus et elles ont mis 30 litres de parfum. Déjà, il y avait le parfum de la femme, là, le parfum de nard de grand prix, et des femmes ont remis 30 litres. Pourquoi 30 litres? C'est de la folie. Enfin, c'était des herbes aromatisées. Comme ça porte un nom, je ne sais plus. Ça veut dire qu'elles veulent conserver Jésus. Elles veulent le garder mort. Elles ne veulent pas que Jésus disparaisse. Elles veulent toujours l'avoir dans son coffre de verre, dans son embaumement. Elles n'ont pas compris que Jésus a dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre et meure. » Mes amis, je pense à Marie de Magdala, qui va au tombeau le jour de Pâques et qui voit le tombeau vide et qui pleure, appuyée, penchée sur le tombeau. Elle ne voit pas que derrière elle, il y a quelqu'un qui dit « Marie, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Et elle dit cette parole étonnante pour vous montrer qu'on ne veut pas que les gens meurent, mais nous devons partir pour aller ailleurs. Et Jésus lui dit « Qui cherches-tu ? » Elle se dit, si c'est toi qui l'as pris, il prend pour jardinier. Si c'est toi qui l'as pris, donne-le-moi et je le prendrai chez moi. Marie de Magdala qui perd la tête parce qu'elle veut emmener chez elle, dans un sac, le cadavre de Jésus. Pour combien de temps? Elle veut garder chez elle le cadavre de Jésus tellement elle ne veut pas le lâcher. Mes amis, sur les cimetières, on voit ces choses. La main sur le cercueil qui ne bouge pas, qui ne bouge plus, on s'en cramponne. Le cercueil d'un enfant qu'on ne veut plus lâcher, d'une femme, c'est terrible. Mais Marie de Magdala, c'était ça, elle se cramponne à Jésus. Il était nécessaire que Jésus meure. Fallait qu'il meure pour nous ouvrir par la mort et par son pardon, le royaume des cieux. Alors, voyez-vous, il faut dire, je suis mortel, que je mette tout en route pour bien vivre ce temps. Mais il ne faut pas seulement reconnaître que je suis mortel. Si je reconnais seulement que je suis mortel, je suis le plus malheureux. Je suis dans le plus grand désespoir, être mortel. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, ben je ne sais pas. Quand je vois les éléphants qui s'en vont pour mourir au même endroit, je me dis, ils doivent savoir qu'ils vont mourir. Les oiseaux qui se cachent pour mourir, ils doivent savoir qu'ils vont mourir. Il ne faut pas seulement que je sache que je vais mourir, ce serait le plus grand désespoir, parce que si simplement je vous dis aujourd'hui, vous allez mourir, eh bien, vous allez me dire, monsieur le pasteur, l'être humain, eh bien, il s'est raté. Il est inférieur aux chênes, aux arbres, inférieur aux tortues, inférieur à des animaux. Il est inférieur à tout. Et Dieu, il est déshonoré Dieu est déshonoré. Il a fait une beauté, une femme, un homme, des enfants qui vont mourir au bout de quelques jours. Mais c'est un déshonneur de Dieu. C'est pas logique. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est pas Dieu. On me le dit souvent. Mais c'est pas Dieu qui fait mourir. Je lui dis non. C'est pas Dieu qui s'amuse avec nous. Non. Nous sommes comme les feuilles d'automne sur les arbres, bien sûr. On a l'impression que notre vie, elle ne va pas aller loin. Je conclus positivement. La vie, c'est un pèlerinage vers une rencontre avec Dieu. Jésus disait le jour de sa mort, « Je monte vers mon Père et votre Père. » Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Ce n'est pas de la rigolade, ça. Si on n'a pas ça chevillé au cœur, mes amis, on est triste. On vit dans les rêves. On n'a rien. Tout est dans la parole de Jésus. Je monte vers mon Père et votre Père. Et je vous prendrai avec moi. Rien de plus beau. Mais des gens me disent beaucoup, oh, plus l'évangile, c'est dépassé. C'est la réalité. Je suis un réaliste. La parole de Dieu transforme tout. C'est une parole porteuse d'éternité. Et le sens de ma vie, le sens de notre vie en est bouleversé. Nous irons un jour chez Dieu. Les apôtres l'ont compris après. Ils l'ont compris. Quand ils prêchaient, ils disaient, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Ils avaient un message très fort qui bouleversait Jérusalem, qui a bouleversé Rome, qui a bouleversé Corinthe et toute la Turquie et toute l'Asie mineure de l'époque jusqu'en Inde. Le message des apôtres, il était mort, il est revenu à la vie. Un certain Jésus de Nazareth, on a voulu le retenir, il fallait qu'il parte. Puis nous aussi on partira et on partira avec lui. Amen. Ça va? Je ne vous bouscule pas trop. C'est la vérité, hein. Bon, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, à quel hôte irions-nous? Vers quelle folie, vers quelle utopie, vers quel gourou irions-nous, sinon qu'à toi, le Fils du Dieu vivant? Car tu as les paroles qui font vivre éternellement. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui nous introduiront dans la vie de Dieu, rayonnante, lumineuse. Nous n'avons plus besoin de paroles de rêve. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Créateur des mondes, créateur de nos vies, créateur éternel, nous rejetons derrière nous tout ce qui est trompeur, falsifié, poétique, nous voulons la parole de Dieu et nous te prions, Seigneur, dans ce temps où nous repensons à nos défunts, où nous pensons à la fragilité de notre vie, donne-nous au fond du cœur la vérité. La vérité, c'est que tu nous aimes et que tu ne nous laisseras jamais disparaître, mourir d'une disparition, mourir comme si tout redevenait je ne sais pas quoi. Tu nous prendras avec toi et nous serons toujours avec toi. J'entends ta parole sur la croix quand tu étais exténué, quand tu étais dans l'agonie, dans tes dernières minutes, tu as dit aux brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole, elle est gravée dans le cœur des chrétiens, des milliards de chrétiens depuis 2000 ans. On ne peut pas l'enlever de notre cœur. On a beau nous dire tout ce qu'on veut, elle reste gravée en nous. Tu seras avec moi, dans le paradis. Amen.